Chapitre 3. Le magicien. 1. Roland s'arrêta devant la guérite de la sentinelle, jeta un coup d'œil à l'intérieur, puis ramassa ce qui se trouvait sur le sol. Les autres le rejoignirent et s'attroupèrent autour de lui. Ce qui, de loin, avait eu l'air d'un journal, de près en était bien un, quoique d'une excessive bizarrerie. Rien à voir avec le capital journal de Topeka ni avec les nouvelles d'une super grippe décimant la population. Le Zonzon quotidien d'Oz, volume 1568, numéro 96. Donnez-nous notre Zonzon quotidien. Le temps, présent aujourd'hui, passé demain. Numéro de chance, aucun. Prévision, mauvaise. Blablabla, bien c'est mal c'est bien, tout se vaut, s'équivaut, bien c'est mal c'est bien, tout se vaut, s'équivaut, allez lentement passer les trois vers, tout se vaut, s'équivaut, blablabla, et peine, tout se vaut, s'équivaut, yak 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 yak, chariotri, tout se vaut, s'équivaut, black yak blablabla, yak 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 yak, pigeon rôti, oie cuite, tout se vaut, s'équivaut, blabla yak, prendre un bain, mourir de chagrin, tout se vaut, s'équivaut, blablabla. En dessous se trouvait une photo de Roland, Eddie, Susanna et Jake en train de traverser la cour du miroir, comme si l'événement avait eu lieu la veille et non quelques minutes auparavant. La légende était la suivante. Tragédie au pays d'Oz, des voyageurs venus chercher gloire et fortune trouvent la mort. J'adore ça, fit Eddie, remettant bien en place le revolver de Roland dans son étui, qu'il portait bas sur la hanche. Vachement réconfortant et encourageant, après des jours de confusion. Comme une boisson chaude un soir où on se les gèle. Faut pas avoir peur de ça, dit Roland. C'est une blague. J'ai pas peur, fit Eddie. Mais ça va plus loin qu'une blague. J'ai pas passé toutes ces années avec Henry Dean pour pas reconnaître quand on veut me faire flipper en me coupant l'herbe sous le pied. Je sais ce que je dis. Il observa Roland curieusement. J'espère que tu m'en voudras pas de te dire ça, Roland. Mais c'est toi qui as l'air d'avoir peur.
Je suis terrifié, répondit simplement ce dernier.
2. Le porche d'entrée remémora à Susanna une chanson qui avait été un tube une bonne dizaine d'années avant qu'elle n'ait été tirée de son monde pour celui de Roland. « J'ai vu un œil, mes pieds, à travers un nuage de fumée derrière la porte verte », disaient les paroles. « Quand j'ai dit « C'est Joe qui m'envoie », quelqu'un s'est marré très fort derrière la porte verte. » En réalité, il y avait deux portes au lieu d'une ici, et pas de trou de serrure au travers duquel un œil pourrait épier. Et Susanna ne prétendit pas non plus que Joe l'envoyait, ce mot de passe éculé remontant aux speakeasies et à la prohibition. Cependant, elle se pencha en avant pour déchiffrer la pancarte accrochée à l'une des poignées de verre ronde. « Sonnette en panne, frappez s'il vous plaît. »« Ne fatigue pas, » dit-elle à Roland, qui levait déjà son poing suite à l'injonction de la pancarte. « Ça figure dans l'histoire. » Eddie recula légèrement le fauteuil roulant, passa devant et empoigna les boutons de porte. Les battants s'ouvrirent sans difficulté, pivotant en silence sur leurs gonds. Il s'aventura d'un pas dans ce qui semblait une grotte verte ombreuse, mit ses mains en porte-voix et cria
« Et là !»
Le son de sa voix se répercuta au loin, puis lui revint en écho, déformé, faible, perdu. Mourant, semblait-il.
Eh merde, fit Eddie. Faut-il en passer par là?
Je crois que oui, si nous voulons retrouver le rayon. Roland était plus pâle que jamais, mais il passa en premier. Jake aida Eddie à faire franchir le seuil, bloc laiteux de verre couleur jade, au fauteuil de Susanna. Les bottillons dotés lançaient de faibles éclairs rouges sur le sol de verre émeraude. Ils n'avaient pas fait 10 pas que les portes se refermaient derrière eux en claquant avec un « BOUM !» indiscutable, dont l'écho se propagea au-delà d'eux dans les profondeurs du palais vert. 3. Aucune salle de réception, seulement un couloir voûté, caverneux, qui semblait sans fin. Une faible lueur verte éclairait les murs.
C'est la reproduction exacte du couloir du film, se dit Jake, celui dans lequel le lion peureux a tellement la frousse qu'il se marche sur la queue.
Et pour ajouter encore une petite touche de similitude dont Jake se serait bien passé, Eddie se mit à imiter, mieux que passablement, le ton chevrotant de Bert Lahr.
Une minute, les amis, je viens juste de me rappeler que j'ai pas tant envie que ça de rencontrer le magicien. Je ferai mieux de vous attendre dehors.
Arrête ! Fit Jake d'un ton sec. Arrête ! Renchérit Otté.
Il ne quittait pas Jake d'une semelle, lançant des coups d'œil vigilants à droite et à gauche. Jake n'entendait rien d'autre que le bruit de leurs pas, tout en ayant une étrange sensation, celle d'un son inexistant. Cela revenait, d'après lui, à guetter un carillon éolien dont la plus infime brise provoquera le tintement.
« Pardon, » dit Eddie. « 1000 fois. » Il montra quelque chose du doigt. « Regardez là-bas. »
À une quarantaine de mètres devant eux, le couloir émeraude venait buter sur une porte verte d'une hauteur phénoménale, 10 mètres au bas mot du sol à la pointe qui la couronnait. Et derrière elle, Jake percevait à présent un ronflement continu. Au fur et à mesure qu'ils approchaient, ce bruit s'accentuait et son épouvante grandissait. Il dut faire un gros effort sur lui-même pour franchir les derniers pas qui le séparaient de la porte. Jake reconnut ce son pour l'avoir entendu pendant sa course sous la cité de Lud, en compagnie de Gachin, puis au cours de son voyage avec ses amis à bord de Blaine le Mono. C'était le battement régulier des turbines à transmission lente.
« On dirait un cauchemar, »
fit-il d'une petite voix au bord des larmes.
« On est revenu au point de départ ?»«
Non, Jake, » fit le pistolero en lui effleurant les cheveux. « Ne crois jamais ça. Tu es victime d'une illusion. Fais face et sois loyal. » L'inscription sur la porte ne figurait pas dans le film. Seule Susanna reconnut le vers de Dante. « Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance, » lurent-ils. Roland tendit le bras et de sa main droite amputée de 2 doigts, tira la porte verte de 10 mètres de haut. 4. Ce qui se trouvait derrière parut aux yeux de Jake, Susanna et Eddie combiner étrangement le magicien d'Oz et Blaine le Mono. Une épaisse moquette, du même bleu pâle que celle du compartiment de la baronnie, tapissait le sol. La salle avait tout d'une nef de cathédrale dont la voûte se perdait à une hauteur impénétrable à l'œil nu, d'un noir verdâtre. De grands pilastres de verre lumineux alternant le rose et le vert s'alignaient contre les murs. Le rose était de la même nuance que celui de Blaine. Jake s'aperçut que ces pilastres étaient gravés de milliards d'images différentes, dont aucune n'était réconfortante. Elle heurtait l'œil et remplissait le cœur d'inquiétude. Il semblait y avoir une prépondérance de visages hurlants et grimaçants. Face aux visiteurs qu'il rapetissait, les faisant paraître pas plus gros que des fourmis, se dressait le seul élément d'ameublement de la salle, un gigantesque trône de verre émeraude. Jake tenta d'en évaluer la taille, mais par manque de points de repère n'y réussit pas. Il estima que le dossier devait mesurer à lui seul 15 mètres de haut, mais il aurait aussi bien pu plafonner à 20 ou même 30 mètres. Il portait le symbole de l'œil ouvert, tracé non plus en jaune cette fois, mais en rouge. La pulsation rythmique de la lumière donnait l'impression que l'œil était vivant et qu'il battait comme un cœur. Au-dessus du trône s'élevaient, tels les tuyaux d'un orgue médiéval grandiose, 13 énormes cylindres émettant chacun des vibrations lumineuses de différentes couleurs. Sauf bien entendu celui du milieu qui était noir comme minuit et d'une immobilité de mort.
« Hola !»
cria Susanna depuis son fauteuil roulant.
« Y a quelqu'un ?»
Au son de sa voix, les tuyaux d'orgue brillèrent d'un tel éclat que Jake dut se protéger les yeux. Un instant, l'ensemble de la salle du trône explosa en un éblouissant arc-en-ciel. Puis les cylindres s'éteignirent, s'obscurcirent, moururent, tout comme le cristal du magicien de l'histoire de Roland quand il décidait, ou bien la force qu'il habitait, de se taire un temps. Seule demeurait à présent la colonne noire et la pulsation verte continue du trône vide. Puis un bourdonnement quelque peu fatigué, tel celui d'un vieux cerveau-mécanisme auquel on demandait de rendre un ultime service, le remplit les oreilles de sa plainte. Des panneaux coulissants, de 2 mètres de long pour 50 centimètres de large, s'ouvrirent dans les accoudoirs du trône. Des fentes obscures, ainsi mises à jour, s'échappa, puis s'éleva une fumée rose. En montant, elle devenait rouge vif. Et au centre, se dessina une ligne au zigzag terriblement familier. Jake la reconnut avant même que les noms, Ludd, Candleton, Rilea, les chutes d'Emolos, Dasherville, Topeka, n'apparaissent, étincelant à travers la fumée. C'était la carte itinéraire de Blaine. Roland pouvait toujours dire que les choses avaient changé et que le sentiment de Jake d'être prisonnier d'un cauchemar, c'est le pire cauchemar de ma vie et c'est la vérité, n'était qu'une illusion engendrée par un esprit troublé et un cœur plein de terreur. Jake n'était pas dupe. Cet endroit avait beau ressembler un peu à la salle du trône du grand et terrible Oz, c'était Blaine le Mono en réalité. Il était de retour à bord de Blaine, et ce serait bientôt reparti pour une séance de devinettes. Jake fut pris d'une soudaine envie de hurler. 5. Eddie reconnut la voix qui tonna hors de la carte itinéraire en suspension dans la fumée au-dessus du trône vert. Mais il ne crut ni qu'il s'agissait de celle de Blaine le Mono, ni de celle du magicien d'Oz. Celle d'un magicien X, à la rigueur, car il ne se trouvait nullement dans la cité d'Émeraude, et Blaine le Mono, quant à lui, était aussi mort qu'une merde de chien écrasé. Eddie l'avait expédié en réparation. Putain, et comment ?
Rebonjour, gentils éclaireurs.
La carte itinéraire fumeuse pulsa. Mais Eddie ne l'associait plus à la voix, bien que, d'après lui, on s'attendit qu'il le fasse.
Non, la voix sortait des tuyaux d'orgue.
En baissant les yeux, il vit que Jake était devenu pâle comme un linge et s'agenouilla près de lui.
« C'est de la frime, petit, » fit-il.
« Non, non, c'est Blaine, il n'est pas mort. »«
Mais
si, il est mort pour de bon. Ça, c'est rien qu'une version amplifiée des annonces qu'on fait à l'école après les cours, qui est en retenue et qui doit se rendre en salle 6 pour voir l'orthophoniste ou ce genre de truc. Pigé ?»
« Quoi ?»
Jake le regarda, la bouche tremblante, l'air ahuri.
Qu'est-ce que tu...
Ces tuyaux sont des haut-parleurs. Même Aminus se paye une grosse voix en Dolby. Tu te souviens pas du film ?
Faut qu'il ait une grosse voix parce que c'est rien qu'un bidonneur, Jake. Rien qu'un bidonneur.
« Que lui racontes-tu là, Eddie de New York ?» « Encore une de tes blagues stupides, esprit mal tourné ? Encore une de tes devinettes truquées ?»«
Ouais, » répondit Eddie. « Celle qui fait comme ça. Combien il faut d'ordinateurs dipolaires pour visser une ampoule ?»«
Qui t'es, mon pote ? Parce que je sais que t'es pas Blaine le Mono. Alors merde, t'es qui ?»«
Je...
suis... »
Ose !
Tempêta la voix. Les colonnes de verre s'illuminèrent, tout comme les tuyaux d'orgue derrière le trône.
Ose ! Le grand ! Le puissant Ose ! Qui êtes-vous ?
Susanna fit rouler son fauteuil jusqu'au pied des marches vertes d'un trône auprès duquel Lord Perse en personne serait passé pour un nain.
Susanna Dean ? « La petite infirme, »
dit-elle.
« On m'a appris la politesse, mais pas à supporter les conneries.
On est venu jusqu'ici, pas qu'on y est censé y être. Pourquoi, sinon, nous a-t-on laissé ses souliers ?
Que veux-tu de moi, Susanna ?
Qu'est-ce qui te ferait plaisir, ma petite cowgirl ?
Tu le sais très bien, répondit-elle. Nous voulons ce que tout le monde veut, autant que je sache, rentrer à la maison, parce que rien ne vaut son chez-soi. Nous...
On ne peut pas rentrer à la maison, c'est Thomas Wolfe qui l'a dit et c'est la vérité.
C'est un mensonge, mon chou,
dit Susanna.
Un mensonge total. On peut rentrer à la maison. Tout ce qu'il faut faire, c'est se trouver le bon arc-en-ciel et passer en dessous. Et on l'a trouvé. Pour le reste, suffit de jouer des pieds, tu vois ?
Vous voulez retourner à New York ? Susanna Dean, Eddie Dean, Jake Chambers ?
Est-ce cela que vous demandez à Oz, le grand ? Au puissant Oz ? New York, ça n'est plus chez nous pour aucun d'entre nous,
objecta Susanna. Sur son nouveau fauteuil, au bas des marches du gigantesque trône, elle paraissait toute petite et pourtant sans peur.
Pas plus que Gilead pour Roland. Remettez-nous sur le sentier du rayon. C'est là que nous voulons aller, parce que c'est le seul chemin pour rentrer chez nous. Le seul que nous ayons.
« Allez-vous-en !»
s'écria la voix dans les tuyaux.
« Allez-vous-en et revenez demain !»« Nous parlerons du rayon demain !»«
Ta-ta-ta !» dit Scarlett. « Nous parlerons du rayon demain, car demain est un autre jour !»«
Non !» fit Eddie. « On va en parler tout de suite !»
« N'excitez pas la colère du grand Oz, du puissant Oz !»
s'écria la voix, et les tuyaux d'orgue étincelèrent de fureur à chaque mot. Susanna, certaine que cela était supposé provoquer la terreur, trouva ça plutôt rigolo, un peu comme regarder un représentant de commerce faire l'article pour un jouet d'enfant.
« Lisez-moi un peu ça, les mômes. Quand on parle dedans, les tuyaux deviennent de toutes les couleurs. Suffit d'essayer. »«
Mon chou, à ton tour, tu ferais mieux d'écouter, » reprit Susanna. « Tu voudrais pas exciter la colère de gens armés ?» Surtout que tu vis dans une maison de verre.
Je vous ai dit de revenir demain.
De la fumée rouge se mit à sortir en bouillonnant des fentes dans les accoudoirs du trône. Elle était plus épaisse à présent. La pseudo-carte itinéraire de Blaine s'y fondit. Et cette fois, la fumée forma un visage. Émacié, dur, aux aguets, encadré de longs cheveux. C'est l'homme que Roland a tué dans le désert. Songea Susanna avec étonnement.
Le fameux Jonas, j'en suis sûr.
Oz s'exprimait maintenant d'une voix légèrement chevrotante.
Oseriez-vous menacer Oz le Grand ?
Les lèvres de l'énorme visage de fumée planant au-dessus du trône esquissèrent un rictus où le mépris le disputait à la menace.
Créatures ingrates ! « Oh, créature ingrate !»
Eddie, qui ne prenait pas des vessies pour des lanternes, avait jeté un coup d'œil dans une autre direction. Les yeux écarquillés, il agrippa Susanna par le coude.
« Regarde !» chuchota-t-il. « Merde, Susie ! Regarde, ôtez !»
Le bafou-bafouilleux se désintéressait complètement des fantômes fumeux sous la forme de cartes itinéraires de monorail, de feux chasseurs du cercueil ou d'effets spéciaux de Hollywood d'avant la guerre 1939-1945. Il avait aperçu ou reniflé quelque chose de bien plus intéressant. Susanna attrapa Jake, l'obligea à pivoter et lui montra le bafouilleux. Elle vit les yeux du garçon s'agrandir de compréhension un instant, avant côté n'atteigne la petite alcôve dans le mur gauche. Elle était masquée par un rideau du même vert que les murs, la séparant de la salle du trône. Otté, étirant son très long cou, saisit l'étoffe à pleines dents et tira. 6. Derrière le rideau étincelaient des lumières vertes et rouges. Des cylindres tourbillonnaient dans des bocaux. Des aiguilles balayaient en tous sens des cadrans allumés et disposés en longues rangées. Cependant, Jake les remarqua à peine, son attention entièrement absorbée par l'homme installé devant la console et qui leur tournait le dos. Ses cheveux sales, striés de crasse et de sang, lui tombaient aux épaules, collés en touffe. Il était coiffé d'une sorte de casque audio et parlait dans un minuscule micro qui lui pendait à hauteur de la bouche. Leur tournant donc le dos, il ne s'aperçut pas tout d'abord qu'Othé l'avait flairé et découvert sa cachette.
« Partez !»
tonna la voix dans les tuyaux d'orgue. Sauf qu'à présent, Jake voyait d'où elle venait, vraiment.
« Revenez demain, si ça vous chante. Mais allez-vous-en maintenant, je vous préviens !»
C'est Jonas. Roland n'a pas dû le tuer au final, chuchota Eddie. Mais Jake en savait plus long. Il avait reconnu la voix. Même déformée par l'amplification des tuyaux de couleur, il l'avait reconnue. Comment avait-il pu s'imaginer que c'était la voix de Blaine ?
« Je vous préviens, si vous refusez !»
Othé aboya, émettant un son aigu et peu avenant. L'homme, dans l'alcôve studio de sonorisation, se retourna.
« Dis-moi, mon couillon !»
Jake se souvint de cette voix, avant que son propriétaire ne découvre les douteux attraits de l'amplification.
« Dis-moi ce que tu sais sur les ordinateurs dipolaires et les circuits à diodes. Dis-le-moi et je te donnerai à boire. »
Ce n'était ni Jonas, ni le magicien de je ne sais quoi. C'était le petit-fils de David Quick, l'homme tic-tac. 7. Jake le fixait avec horreur. La dangereuse créature qui avait vécu, levée en dessous de Lude, avec ses compagnons Garcher et Hoods, Brandon et Tilly, n'était plus. Celui que Jake avait devant les yeux aurait pu être le père d'Hécatie de ce monstre, ou même son grand-père. Son œil gauche, celui qu'Othé lui avait crevé de ses griffes, n'était plus qu'un renflement blanc déformé, débordant de l'orbite sur sa joue mal rasée. Le côté droit de sa tête, scalpé à moitié, laissait voir l'os du crâne à travers une longue ouverture triangulaire. Jake, la mémoire obscurcie par la panique, se souvint vaguement d'un morceau de peau flasque retombant sur le visage de Tic-Tac. Mais il avait été à deux doigts de sombrer dans l'hystérie à ce moment-là, et il l'était à nouveau à présent. Othé avait reconnu lui aussi l'homme qui avait tenté de le tuer, et aboyait maintenant avec frénésie, tête baissée, montrant les dents, faisant le gros dos. Tic-Tac posa sur lui de grands yeux stupéfaits.
« Ne faites pas attention à l'homme derrière le rideau !»
dit une voix qui s'éleva dans leur dos avant de pouffer bêtement.
« Encore un mauvais jour dans une longue série pour mon ami Andrew. Pauvre garçon. Je suppose que j'ai eu tort de lui faire quitter Lude, mais il avait l'air tellement perdu. »
Le propriétaire de la voix pouffa encore une fois. Jake se retourna d'un bloc et s'aperçut qu'un autre individu était assis en tailleur sur le trône gigantesque. Vêtu d'un jean, d'une veste noire bouclée à la ceinture, il était chaussé de vieilles bottes de cow-boy complètement éculées. Il portait, épinglé sur sa veste, une tête de cochon trouée d'une balle entre les deux yeux. Sur ses genoux, le nouveau venu tenait un sac fermé par un cordon. Il se leva, se dressant sur l'assise du trône comme un gamin sur la chaise de papa, et son sourire quitta son visage comme une peau flasque. Ses yeux lançaient des flammes, et ses lèvres entrouvertes découvraient de grosses dents gourmandes.
« Descends-les, Andrew, tue-les, bousille-les, tous ces nictasseurs tant qu'ils sont !»«
Ma fille pour la tienne !»
hurla l'homme de l'alcôve. C'est alors que Jake repéra la mitraillette appuyée sur un coin. Tic-Tac s'en empara d'un bond.
« Ma vie pour la tienne !»
À l'instant où Tic-Tac se retournait, Othé lui sauta dessus une fois de plus et lui planta ses crocs dans la cuisse gauche, juste en dessous de l'aine. Eddie et Susanna dégainèrent comme un seul homme, chacun brandissant l'un des gros revolvers de Roland. Ils tirèrent à l'unisson, toutes détonations confondues. L'une des balles arracha au passage le haut du crâne déjà bien amoché de Tic-Tac avant d'aller s'enfouir dans le matériel sonore qui émit un feulement déchirant en feedback, heureusement bref, étant donné le volume. L'autre balle se logea dans sa gorge. Tic-Tac avança en trébuchant. Otté se laissa tomber sur le sol et prit du champ montrant les dents. Au bout de quelques pas, Tic-Tac se retrouva complètement dans la salle du trône. Il leva les bras en direction de Jake, qui lut la haine que lui vouait Tiki dans l'unique œil vert qui lui restait. Le garçon crut entendre la dernière et détestable pensée qui traversa l'esprit de Tic-Tac.
« Espèce de sale petit louchon de merde !»
Puis Tic-Tac s'effondra, tête la première, comme il l'avait fait dans le berceau des gris, sauf que cette fois, il ne s'en relèverait pas.
Ainsi, chut Lord Perth, et la contrée a tremblé sous ce coup de tonnerre, dit l'homme sur le trône.
Sauf que c'est pas un homme, songea Jake. Pas du tout un homme. Je crois qu'on a enfin trouvé le magicien. Et je suis prêt à parier que je sais ce qu'il a dans son sac.
Martin, dit Roland, tendant la main gauche, celle qui avait encore tous ses doigts.
Martin Large Cape, après toutes ces années, après tous ces siècles.
Tu veux ça, Roland? Eddie lui mit dans la main le revolver qui venait de tuer l'homme Tic-Tac. Un filet de fumée bleue s'échappait encore du canon. Roland regarda sa vieille arme comme s'il la voyait pour la première fois, puis la leva et la braqua sur la silhouette ricanante à joues roses, assise en tailleur sur le trône du palais vert.
« Enfin !» souffla Roland, armant le chien du pouce. « Enfin dans ma ligne de mire !»
8.
« Ce Sikun ne te servira à rien, et je crois que tu le sais, » dit l'homme assis sur le trône. « Pas contre moi !» Il fera long feu contre moi, mon vieux Roland.
Comment vont tes parents, au fait? J'ai perdu tout contact avec eux au fil des années. J'ai toujours été un piètre correspondant. On devrait me donner le fouet, j'y fais, assurément.
Il rit à gorge déployée, rejetant la tête en arrière.
Roland pressa la détente. Le chien ne rendit qu'un clic sourd.
« Je t'avais prévenu, » fit l'homme sur le trône. « À mon avis, t'as dû glisser dedans par inadvertance ces balles qui ont pris l'eau, tu crois pas? Celles dont la poudre est éventée. »«
Ça suffit pour arrêter le son de la tramée, mais pas pour descendre les vieux magiciens. »«
Hein? Dommage. »« Et ta main, Roland ?» « Regarde-moi un peu ça. Elle manque de doigts, si je vois bien. Ça, par exemple, t'en as bavé, c'est pas ?»«
Les choses pourraient s'améliorer un tantinet, pourtant. Toi et tes amis, vous pourriez mener une belle vie bien remplie, et comme dirait Jake, c'est la vérité.
Plus de monstruosités, plus de trains fous, plus de voyages inquiétants, pour ne pas dire dangereux, dans d'autres mondes. Il vous suffit pour cela de renoncer à cette quête stupide et sans espoir de la tour.
« Non !» répondit Eddie. « Non !»
répondit Susanna.
« Non !»
répondit Jake.
« Non !»
fit Otté, qui aboya en sus. L'homme noir sur le trône vert continua à sourire, impassible.
« Et toi, Roland ?» demanda-t-il.
Il leva doucement le sac. Vieille chose poussiéreuse, elle pendouillait du poing du magicien comme une larme. Son contenu se mit soudain à émettre des pulsations de lumière rose.
« Renonce, et ils n'auront jamais besoin de voir ce qu'il y a à l'intérieur de ceci. » Ils n'auront jamais besoin de voir le dernier acte de cette triste pièce dont le premier se perd dans la nuit des temps. Renonce, détourne-toi de la tour et passe ton chemin.
Non, répondit Roland. Il ébaucha un sourire et au fur et à mesure qu'il s'élargissait, celui de l'homme assis sur le trône s'effaçait.
« Tu peux ensorceler mes revolvers, ceux de ce monde, j'intuite, » dit-il.
« Roland, mon petit gars, j'ignore ce que tu as derrière la tête, mais je te conseille de ne pas contrarier le grand Oz, le puissant Oz. C'est pourtant ce que je vais faire, je crois, Martin, ou Merlin, ou qui ou qu'est-ce suivant le nom que tu te donnes maintenant. Flag, en fait, dit l'homme sur le trône. Et nous nous sommes déjà rencontrés. Il sourit, mais au lieu d'éclairer son visage, ce qui est le propre d'un sourire, celui de Flag crispait ses traits en une grimace malveillante et mesquine. Au moment de la chute de Gilead, toi et tes compagnons survivants, cet âne barté rigolard de Cuthbert Allgood faisait partie de ta bande, je m'en souviens, et aussi de Curry, celui à la tache de vin. Cheminier vers l'ouest en quête de la tour, ou, si tu préfères, pour parler comme dans le monde de Jake, vous étiez en route pour voir le magicien. Je sais que tu m'as vu, mais je doute que tu aies su jusqu'au jour d'aujourd'hui que je t'avais vu aussi. Et
j'intuite que je te reverrai, dit Roland. À moins que je ne te tue sur le champ et mette ainsi fin à tes interférences.
Sans lâcher son revolver qu'il tenait de la main gauche, il extirpa de la droite celui glissé à la ceinture de son jean, le Ruger de Jake, arme d'un autre monde et, peut-être comme tel, à l'abri des enchantements de cette créature. Et déploya pour cela sa rapidité de toujours, éblouissante de vitesse. L'homme se blottit sur le trône en poussant des cris aigus. Le sac glissa de ses genoux et la boule de cristal, autrefois tenu par Rhea, puis par Jonas et enfin par Roland en personne, s'en échappa. De la fumée, verte et non plus rouge cette fois, bouillonna hors des accoudoirs du trône et s'éleva comme un rideau protecteur. Toutefois, Roland aurait pu faire mouche sur la silhouette que lui dérobait la fumée s'il avait dégainé à la perfection, ce qui fut loin d'être le cas. Le Ruger glissa dans sa main amputée, n'offrant pas assez de prise, puis le bouton de mire vint s'empêtrer dans la boucle de son ceinturon. Il ne lui fallut qu'un quart de seconde pour le libérer, mais ce fut un quart de seconde de trop. Il tira à trois reprises dans les tourbillons de fumée, puis se précipita en avant sans tenir compte des cris de ses compagnons. Il chassait la fumée des deux mains. Ses balles avaient fracassé le dossier du trône en épaisses échardes de verre vert, mais la créature à visage humain qui se dénommait Flag avait disparu. Et Roland se surprit à se demander si elle, il ou ça avait été bien là pour commencer. Le cristal, lui, était toujours là. Intact, il répandait cette même lueur d'un rose intense si attirante dont il avait conservé le si lointain souvenir, depuis Mégis, où il avait été jeune et connu l'amour. Ce vestige rescapé de l'arc-en-ciel de Merlin avait roulé jusqu'à l'extrême bord du siège du trône. 2 centimètres de plus, et il aurait plongé et se serait brisé sur le sol. Mais cela avait été épargné à cet objet d'enchantement que Suzanne Delgado avait entrevu pour la première fois par la fenêtre de la masure de Rhea à la clarté de la lune des baisers. Roland le ramassa, comme il s'adaptait bien à sa main, comme il semblait naturel de le tenir au creux de sa paume, même après toutes ces années, et jeta un regard au plus profond de ces troubles nuages. « Tu as toujours tenu une vie sous ton charme, » lui murmura-t-il. Il songea à Rhea comme il l'avait vue dans ce cristal avec son vieil œil rieur. Il songea au feu de joie de la nuit de la moisson, enveloppant Suzanne de ses flammes, faisant chatoyer sa beauté sous sa chaleur, puis miroiter et frissonner comme un mirage. « Glam maudit !» se dit-il. « Si jamais je te brisais sur le sol, on périrait tous, à coup sûr noyés dans l'océan de larmes que ton ventre fondu répandrait, les larmes de tous ceux que tu as menés à leur perte. Et pourquoi ne pas le faire ? Son intégrité préservée, cet objet de malheur pourrait les aider à revenir sur le sentier du rayon, même si Roland était persuadé qu'il n'avait pas vraiment besoin de lui pour ça, pensant comme il le faisait que Tic-Tac et la créature qui s'était donné le nom de Flag avaient représenté leur dernière épreuve à cet égard. Le palais vert était leur porte de retour dans l'entre-deux-mondes, et il leur appartenait dorénavant. Ils l'avaient conquis par la force des armes.
Mais tu ne peux pas encore aller de l'avant, pistolero. Pas tant que tu n'as pas achevé ton histoire, raconté la dernière scène du dernier acte. Quelle était donc cette voix? Celle de Vanet? Non. Celle de Corte? Non. Et pas davantage la voix de son père, qu'il avait un jour viré à poil de la couche d'une putain. C'était la plus dure de toutes, celle qu'il entendait souvent dans ses rêves agités, celle qu'il voulait tellement contenter, en y réussissant si rarement. Mais non, pas cette voix-là, pas cette fois. Cette fois, il entendait la voix du cas qui est comme le vent. Il avait déjà raconté tellement de choses de cette abominable 14e année de sa vie, mais il n'avait pas terminé son récit. Tout comme Detta Walker et le plat des grandes occasions de Tente Bleue, il restait encore une chose à leur dire, une chose cachée. Le problème n'était pas, il le voyait bien, de savoir s'ils pourraient ou non, tous les cinq, arriver à sortir du palais vert et à retrouver le sentier du rayon. Le problème, c'était de savoir s'il pourrait ou non continuer en tant que cas-tête. S'il devait en être ainsi, rien ne pouvait demeurer caché. Il devrait leur raconter l'ultime fois où il avait regardé dans le cristal du magicien en cette année d'autrefois. Trois nuits après le banquet de bienvenue, ça avait eu lieu. Il devrait leur dire. « Non, Roland, » lui chuchota la voix. Ne te contente pas de le leur dire, pas cette fois. Tu sais très bien qu'il y a mieux à faire. Oui, en effet, il y avait mieux à faire, il le savait. Venez là, leur dit-il en se tournant vers eux. Ils se rassemblèrent lentement autour de lui, la lumière rose étincelante emplissant leurs yeux écarquillés. Ils étaient déjà à demi hypnotisé par elle. Ôté compris. Nous formons un cas-tête, dit Roland, tendant le cristal dans leur direction. Un en plusieurs. J'ai perdu mon seul et véritable amour au début de ma quête de la tour sombre. Maintenant, votre tour est venu de regarder dans cet objet maudit, si vous le voulez. Et vous y verrez ce que j'ai perdu aussi, peu de temps après. Voyez-le une bonne fois pour toutes. Donc, ouvrez grand les yeux. Ce qu'ils firent. Le cristal que Roland tenait dans ses mains levées se mit à pulser plus vite. Il les réunit et les emporta. Pris dans le tourbillon de la tornade rose, ils s'envolèrent par-delà l'arc-en-ciel du magicien jusqu'au Gilead d'antan.